Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Okapi Service. Depuis plusieurs semaines, le taux de change du dollar américain est en baisse sur le marché congolais. Une évolution saluée par de nombreux ménages, tant le dollar influence directement le coût de la vie en République démocratique du Congo. La RDC étant largement dépendant des importations, toute variation du taux de change est censée se répercuter sur les prix de biens et services de première nécessité. Mais sur le marché, dans les boutiques, les supermarchés ou encore les dépôts des matériaux de construction, les consommateurs s'interrogent. Cette baisse du dollar s'est traduite-t-elle réellement par une diminution des prix? Entre la persistance des prix élevés, les stocks achetés à l'ancien taux, les pratiques spéculatives et l'absence des mécanismes efficaces de contrôle, le pouvoir d'achat des ménages peine encore à ressentir les effets annoncés. Alors, les prix ont-ils effectivement baissé sur le marché congolais? Quels sont les produits concernés? Quels facteurs expliquent la résistance de certains prix malgré la baisse du taux de change? Et surtout, que peuvent faire les autorités et les commerçants pour que cette baisse profite réellement aux consommateurs? Baisse du taux du dollar, les prix des articles ont-ils réellement baissé sur les marchés? C'est le thème de votre émission Okapi Service de ce vendredi qui reçoit pour vous Mathieu Takizala. Il est économiste et entrepreneur. Monsieur Takizala, bonjour.
Je vous remercie, madame. C'est une première pour 2026 Okapi Service. Et je suis ravi d'être dans ce plateau de la radio de la paix de Kinshasa. Et je salue aussi le technicien de cette émission.
Le technicien de cette émission, c'est Paul Badianyama qui est à la mise en onde. Ben Moudoumbi est à la réalisation. Mathieu, je suis Jocelyne Moussaoupondé. Si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, contactez-nous au 085 42 11 547. 085 42 11 547.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Baisse du taux du dollar, les prix des articles ont-ils réellement baissé sur le marché? C'est le thème de l'émission Okapi Service d'aujourd'hui. Nous en parlons avec Mathieu Takizala, économiste et entrepreneur. Pour commencer, Monsieur Takizala, selon vous, qu'est-ce qui explique la baisse récente du taux de change du dollar sur le marché congolais?
Bon, la banque de banque qu'on appelle la banque centrale, on a vu qu'il est arrivé d'André, qui est l'actuel gouverneur, il a cherché à agir sur les réserves d'échange, c'est-à-dire qu'il a injecté pas mal de devises sur le marché, et ça fait que la plupart des gens qui avaient dollars commençaient maintenant à chercher le franc congolais. Donc le mouvement s'est opéré à plusieurs reprises, et c'est là qu'on a constaté que le franc congolais a commencé à prendre la maturité par rapport au dollar roi. Il y a aussi le contexte international. Quand vous regardez l'arrivée du président Donald Trump, a cherché de plus en plus à redynamiser l'économie américaine, et que le dollar par rapport à yuan et l'euro, le dollar a fait un peu l'affaissement, ainsi de suite. Donc, sur le marché local, c'est l'agissement de la banque de banque, qu'on appelle la banque centrale, par l'entremise du gouverneur, dans la partie internationale, les Américains, il y a une compétition aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, l'Europe, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et cela fait que le dollar roi a commencé un peu à se diminuer.
Mm. Et sur le plan local, comment on peut expliquer le lien entre la baisse du dollar et l'évolution des prix de biens et services?
Bon, on a vu que ce gouvernement de Mme Soumino, avec le confrère économiste, le ministre de l'économie, Daniel Mukuru Samba, dans le premier minute, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a cherché à les produits des premières nécessités que la grande consommation consomme en République démocratique du Congo. Il avait baissé le taux des taxes, à l'entremise de taxes sur la valeur rajoutée. Et cela a fait que le consommateur finisse a senti un peu le rabais. Mmh. Mais le vrai problème de la société congolaise, c'est la compétition n'est pas une compétition saine. Mmh. L'informel est tellement supérieur. Et puis, l'absence d'une production locale. Mmh. C'est-à-dire que si nous voulons que le franc congolais puisse avoir des points de vue conjoncturels, structurel, parce que ce qui s'est passé, c'était conjoncture. Mmh. Mais maintenant, ce qui point de vue est structurel, il faut chercher à augmenter la production locale et à éradiquer aussi ce qu'on appelle l'indice de l'informel, qui est très, très important.
Mmh. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de cette production locale, tant qu'on ne va pas consommer ce qu'on produit, il y aura toujours cette faiblesse du franc congolais.
Oui, il y aura vraiment une faiblesse du franc congolais, parce qu'aujourd'hui, et quand vous regardez, le franc congolais doit avoir un matelas. Mmh. Le matelas, le franc congolais, ça doit être la production et le bien et service doit être canalisé par les entonnoirs structurels. Ça veut dire que les sociétés, du point de vue structurel. Mais aujourd'hui, l'échange se fait beaucoup plus du côté en dehors du circuit formel de l'économie.
Mmh. Mais l'économie congolaise étant dépendante des importations, on devait quand même, avec tout ce que vous expliquez sur le plan international et avec les actions menées sur terrain, ressentir en fait les effets de toutes ces actions sur les prix, sur le panier de la ménage, de la ménagère, mais cela n'arrive pas. Selon vous, quel rôle l'État congolais est-il censé jouer pour s'assurer que que la baisse du dollar profite réellement
du point de vue local? Du point de vue local, l'État doit avoir des alliés. L'État, c'est quelqu'un qui coordonne. L'État tout seul ne fera pas face à la réalité socio-économique du pays. Mmh. Il faut que l'État puisse avoir des alliés, nous les entrepreneurs, pour que nous puissions avancer. Vous savez que nous sommes parmi les États, l'entreprise privée patine en République démocratique du Congo, mmh, parce qu'on est talonné par l'entreprise qui n'est pas structurel, qui mmh est du côté de l'informel. Mmh. Et c'est ce qui fait aussi la grande difficulté. Et puis, la consommation dans toutes les économies majeures est soutenue par ce qu'on appelle le taux de crédit à la consommation. Aujourd'hui, mmh, le taux de crédit à la République démocratique du Congo, elle est faible parce que l'intervention de la banque, donc le financement de l'économie, n'est pas très très important. Il faut maintenant faire de sorte que les petites moyennes entreprises qui sont à la République démocratique du Congo, les TPE, que nous puissions les financer et leur donner un carnet de commandes. Parce qu'aujourd'hui, la morale des chefs d'entreprise en République démocratique du Congo, vu le volume de l'informel, fait que la morale des chefs d'entreprise, elle n'est pas au zénith, comme disaient les Parisiens. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État congolais doit faire des sortes en créant un plan de relance de petites moyennes entreprises en République démocratique du Congo, en donnant quand même ce qu'on appelle l'entonnoir du carnet de commandes, et puis en accompagnant ces petites moyennes entreprises avec le financement. Le vrai problème des entreprises en République démocratique du Congo, c'est le carnet de commandes, c'est le financement, et c'est cela qui va faire aussi que vous allez voir que la consommation peut revenir mmh du côté de la formalité, et entre la concurrence loyale qui ne sera pas déloyale, et le prix peut baisser. Ou affaissé.
Donc les prestataires des services sont là, les entrepreneurs sont là, mais les marchés n'est pas aussi grand pour eux, ils ne reçoivent pas
oui
les commandes.
En tant qu'un chef d'entreprise, moi je viens de faire à Kinshasa 7 ans dans mmh mon domaine, je vois que 7 ans présent, un entrepreneur connu, mais on n'a même pas de carnet de commandes. Or mmh que nous avons des ministères techniques comme l'économie, le budget et le plan, y compris même le ministère de l'agriculture ou même de l'industrie, même le commerce extérieur. Nous avons signé des traités au niveau régional, par exemple la ZULECAF. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, la plupart des États cherchent la GOA, le marché américain, et nous on est tenté de signer avec les Qataris. Donc tous ces accords
pour que ça puisse avoir quand même l'attractivité économique du point de vue réel, il faut que le gouvernement, par l'entremise du président Tshisekedi et ses alliés, qui comprennent qu'ils doivent avoir le vrai allié économique dans le territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'un côté l'exode, nous avons d'un côté l'informel, et malheureusement, c'est là où vous voyez qu'à chaque fois, on va avoir ce qu'on appelle une concurrence déloyale. Mmh. Et qu'avec le volume de l'informel, c'est-à-dire que la spéculation restera toujours le maître pendule en rapide au quartier du Congo.
Et ces commandes, vous pensez qu'elles devaient nécessairement venir de l'État ou de l'autre côté, la population aussi devait avoir un certain pouvoir d'achat pour pouvoir faire partie de votre liste de commandes, de votre carnet de commandes.
Cette question, elle est bonne, mais le pouvoir d'achat de la population provient aussi de l'état de santé des entreprises. Mmh. Parce que la population doit travailler dans la formalité. Nous avons fait 40 ans épidémocratie du Congo où la population est dans le débrouillandisme. Et quand on est dans le débrouillandisme, on ne planifie pas. C'est-à-dire que c'est volatile. C'est ce qui se passe. L'épargne pose problème à l'épidémocratie du Congo. Et qu'est-ce qui peut augmenter aussi le pouvoir d'achat des uns et des autres? Il faut parler de la fiscalité de l'épidémocratie du Congo. L'une des talons d'Achille de l'attractivité économique à l'épidémocratie du Congo. Mmh. Donc il faut maintenant que nous cherchions à remettre ce pendule à zéro et que le Congo doit chercher à avoir. Vous voyez aujourd'hui, les économies comme le Nigeria, aujourd'hui, c'est parmi les économies florissantes du continent et même du monde. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent à une génération des entrepreneurs nigériens qui ont un carnet de commandes dans tous les secteurs. Mm-hmm. Mais nous, aujourd'hui, en démocratie du Congo, les entrepreneurs que nous sommes, la plupart, nous n'avons pas de carnet de commandes. Mm-hmm. Et ça fait quand même la grande difficulté du gouvernant, c'est qu'il gouverne la démocratie du Congo. Mmh. Vous voyez même le déplacement de nos dirigeants. C'est rare de trouver des grands entrepreneurs ou les entrepreneurs à côté des chefs d'entreprise, des politiques. Mmh. Nous avons formé une génération de politiques excellents, mais la génération des entrepreneurs dorés, il y en a plus en démocratie du Congo. Nous sommes là, il faut que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, si nous voulons réduire le prix, même la production, c'est pas au ministre de faire la production, c'est à nous les entrepreneurs. Mais si on n'a pas de crédit, si on n'a pas de carnet de commandes, et donc comment on va faire? Et l'infratitude nous fait défaut. Donc il faut, c'est dit, le plan de relance des petites et moyennes entreprises et les TP à la démocratie du Congo avec un financement clair pour que nous puissions avancer.
Voilà, Monsieur Takiza, là, on a planté les décors. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Notre standard est déjà ouvert, chers auditeurs. Pour participer à cette émission, composez le 0825 42 11 547. Nous avons en ligne Dr Christian Nzenga qui nous appelle de Bounia en Ituri. Docteur Christian, bonjour.
Bonjour Madame Kelly, bonjour nos auditeurs de la radio Kati, je vous coûte 5-6. Bon, je suis vraiment content que l'invité il est venu parler sur la radio Kati. Je suis vraiment très encouragé par ça, par le gouvernement du Congo.
Et bon, votre question
ceci,
oui.
Oui, je voulais dire ceci. Ce que l'invité il est venu parler sur la radio Kati, c'est très nécessaire écouté par nous, les entrepreneurs. Nous, les entrepreneurs, comme moi, je suis le docteur en médecine traditionnelle. J'avais découvert une richesse dans mon pays. Cette richesse, ça va se produire aux milliards de dollars. Si le gouvernement congolais, entre moi, nous devons se mettre à la main pour connaître cette richesse.
Docteur Christian, on parle de la baisse du taux de dollar et de l'impact sur les prix des articles sur les marchés. Qu'est-ce que vous avez constaté chez vous sur le point, enfin, du point de vue prix des produits, des biens et services à Bounia? Nous parlons de la baisse du taux de dollar.
Oui, tout à fait, madame. Dans notre province, je les souris ici, vraiment. L'économie est baissée naturellement, mais vraiment dans les marchés, comme dans notre marché central de Bounia ici, il y a les gens qui vendent leurs marchandises, les taux ne sont pas toujours les mêmes. Il y a d'autres gens qui vendent à 25 000 francs les 10 dollars, d'autres 22 000 francs, d'autres 23 000.
Donc le taux n'est pas uniforme, le taux d'échange.
Il ne faut pas vraiment. Oui.
Et, oui, sur... et en ce qui concerne les prix, qu'est-ce que vous avez constaté?
Bon, les prix, vraiment, c'est très écoutant, vraiment, c'est très bien dans notre province. malgré la crise, mais vraiment le dollar est trop baissé. J'encourage le gouvernement de la République et par le ministère des Budgets et des Finances.
Et quelle est votre question à notre invité, s'il vous plaît?
Je suis vraiment très écoutant dans notre invité. Il est venu nous dire la vérité, ce que ça se passe dans notre province, parce que moi je suis dans la ville de Bounia, dans notre ville de Bounia ici, avec notre gouverneur Johnny Luboya Kachama. Il travaille vraiment très bien avec les maires de la ville.
Merci. Donc vous soutenez, vous appuyez ce que dit notre invité, Monsieur Mathieu Takizala, qui est économiste et entrepreneur, et vous encouragez les actions du gouvernement provincial sur place à Bounia et en Ituri. Mais vous avez relevé quand même cette disparité de taux de change sur le marché à Bounia. Merci Christian Denga de nous avoir appelé à partir de l'Ituri, et on va revenir à Kinshasa pour prendre au téléphone Elvis Londola, qui nous appelle depuis la commune de Matete. Bonjour Elvis Londola.
Bonjour madame, bonjour aussi à notre invité, merci l'économiste.
Voilà, quelle est votre question?
Bonjour.
Oui madame, je voulais d'abord commencer par dire que, d'abord, il a placé des corps, mais peut-être je ne sais pas si on est encore au début, il n'a pas touché les vifs de notre sujet. Et je voulais dire d'abord sur le plan ménager, parce qu'aujourd'hui, ici à là où nous sommes, je suis précisément au marché, les dollars ils nagent entre 22 et 23. Mais sur le plan ménager, je peux parler sur le plan ménager, les sacs de riz, les sacs de bébés, ils devaient être vendus parce que c'était à 25 ou 23 dollars, ça évolue maintenant à 55 000 francs. Et les sacs de maïs, c'est pour 48 000 francs. Alors si nous baissons encore sur au niveau bas, aujourd'hui, vous constatez avec nous que vous n'entrez pas des termes pour des supermarchés. Dans un avenir, vous allez trouver aujourd'hui que les savons, les coques qui s'évaluent peut-être à 500, 700, vous dites à 900 000 francs. Alors, on peut saluer peut-être qu'on dit pas la baisse du dollar, mais sur le plan réel, on ne ressent pas peut-être, il nous faut encore plus. Parce que nous avons, j'ai suivi dernièrement l'application TAL, où le ministre de l'économie a mis en place. Et c'est la question que je voulais poser. On peut appliquer cette application dans quel marché? Sur les supermarchés, dans les boutiques publiques, est-ce qu'il y a des boutiques qui sont publiques, peut-être où vous avez votre application TAL, où vous confrontez le prix qui est affiché avec le prix qui est donné dans l'application. Je ne sais pas si vous me suivez, madame.
Oui, mais quelle est votre question à notre invité?
Ma question est la suivante. Est-ce que l'État congolais a-t-il, jusqu'à présent, a-t-il fait un bilan pour réévaluer la baisse du dollar par rapport à ce qui a été autour de 28 500 francs aujourd'hui à 22 900 ou à 23 000? Comment serait peut-être le bilan que les États ont donné? Selon lui, est-ce que le bilan, on peut dire que le bilan est positif, négatif ou encore
stabilisé? Merci Elvis Londola, vous nous appelez depuis Kinshasa à Matete. Monsieur Mathieu Takizala, comment évaluez-vous jusqu'ici ces actions du gouvernement sur le panier de la ménagère?
Bon, je pense que Elvis nous a pris au cours de la route. Je risque de me répéter. J'avais dit que le vrai problème de prix en République démocratique du Congo, comme nous dépendons beaucoup plus de l'économie informelle, la spéculation est là. Il faut chercher de sorte de réguler l'économie informelle, d'éradiquer l'économie informelle. C'est ce que lui dit, que le dollar a baissé, mais il y a ce qu'on appelle une augmentation en francs congolais.
Oui, tout
si
à
on
fait.
Comprend, il y a ce qu'on appelle une inflation qui s'est faite même dans le déplacement dans la ville. Mais pourquoi tout ça? Ce qui s'est fait tout ça, nous voyons que nous dépendons de l'informel. C'est pour ça que j'ai dit au gouvernement, il faut relancer les petites et moyennes entreprises ou l'existant qui existe pour faire de sorte que les mesures incitatives puissent éradiquer l'informel. Si nous éradiquons l'informel, on peut réguler le prix. Mais il faut aussi mettre l'action sur la production locale.
Donc, il faut donner combien de tonnes de maïs qu'on a besoin l'année. Aujourd'hui, ce nombre de tonnes de maïs, ça vient de quelle origine? Nous savons bien que ça vient beaucoup plus dans les pays asiatiques, y compris l'Inde. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays démocratique du Congo, dans chaque province, quelle est la capacité de production? Et quelles sont les fermes, ainsi de suite? Là, il faut qu'on passe du point de vue pratique. Il faut maintenant accompagner les acteurs, parce que ce n'est pas au gouvernement de créer.
Mais est-ce que ces acteurs-là ne sont pas aussi animés de mauvaise foi pour un produit qui coûtait, pour un article qui coûtait, on va dire, 10 dollars? Aujourd'hui, il faut débourser 12 dollars. Je me mets dans la peau d'une marchande. Si j'achetais mon article à 8 dollars pour revendre à 10 dollars, c'est logique que je garde le même prix. Et pourquoi aujourd'hui les marchands exigent plus à leurs clients, alors que en amont peut-être les importateurs ont baissé les prix et la chaîne devait suivre jusqu'au consommateur final? Est-ce que c'est pas une mauvaise foi de la part des marchands?
Je dirais pas ça. Il faut pas qu'on tombe dans le piège latin. Hein. Vous savez, les latins, on essaie beaucoup plus de noircir l'entreprise ou de noircir le chef d'entreprise. Mmh. Nous devons être comme les anglo-saxons. Ils aiment bien leur patron. Parce que sans le patron ou le marchand, la vie ne sera pas rose dans le territoire. Je crois qu'aujourd'hui, l'une des grandes difficultés qu'on a fait, on a laissé nos échanges. Nous louons les maisons pas auprès des entreprises. Mmh. Nous prenons le taxi pas auprès des entreprises. C'est toujours l'indice de l'informel. Mmh. Même le marché que nous disons, nous n'avons pas pensé même à réguler que ça soit quand même des unités de production formelles. Mmh. C'est pour ça que vous voyez que c'est de plus en plus difficile de réguler l'informel. Mmh. Donc, il faut que nous quittons le cap de l'informel, de la consommation congolaise, et que nous soutenons quand même la consommation du point de vue structurel. Et vous verrez que l'État peut avoir de vrais alliés à actionner. Mais aujourd'hui, cette maman-là, pourquoi elle la perd? Elle est aussi consommatrice, non? Mmh. Celle qui vend au marché des Gambela. Mmh. Celle qui vend... Il faut lui donner un statut. Hein, des commerçants reconnus, des marchands. Aujourd'hui, trois quarts n'ont pas de statut. Même quand ils travaillent dans ce secteur-là, ils se mettent dans l'esprit du débrouillandisme. Et la perd, c'est quoi? Elle loue une maison, elle prend un taxi, ainsi de suite. Donc, c'est cet flou. Le système économique congolais,
il y a un flou dans le système
parce qu'on a laissé beaucoup de nos échanges du côté de l'informel. Maintenant, il faut irradier. Même le transport, vous voyez, en ce moment, logiquement, on ne peut pas dépendre d'une grande ville comme Kinshasa et à 95% dans les acteurs de l'informel pour les déplacements.
Les 207, les motos.
Ah, vous voyez.
Ok, on va y revenir, Monsieur Mathieu Takisala, le temps de prendre Patrick Biamungu, qui nous appelle aussi à partir de l'Ituri, il est à Maïgi. Monsieur Patrick Biamungu, bonjour.
Bonjour, monsieur, madame, Jocelyne Moussaopandé, comment vous allez?
Nous vous écoutons. Quelle est votre question à monsieur Mathieu Takisala?
Oui, bon, moi j'aimerais commencer d'abord parce que moi je suis victime de cette espèce de taux de change. Parce que vous allez trouver que nous qui faisons étudier les enfants là où on payait les dollars, et puis à un certain moment, ils ont catégoriquement refusé les dollars pour nous dire que nous devons payer la franc congolais. Nous, on n'a pas refusé, on a accepté, mais ils nous ont obligés de payer les taux de change à 2950 auparavant.
Il y a un bruit, monsieur Patrick Biamungu. Est-ce que vous pouvez rester sur place parce que peut-être apparemment vous êtes en train de vous déplacer et ça produit un bruit désagréable sur votre téléphone. Si vous pouvez rester sur place, nous poser votre question et voilà, continuez après.
Là, vous m'écoutez bien?
On vous entend très bien.
Oui.
Ok, c'est bon, merci beaucoup. Oui. Et puis, l'école a refusé qu'on puisse donner les frais scolaires en dollars. Mais nous, on a accepté, on a dit que, ok, c'est notre monnaie nationale, on doit donner en francs congolais. Mais ils nous ont obligés de payer les taux d'échange à 2900 francs. Jusqu'à ce que le problème est arrivé à la justice, il y a un des parents qui avait vraiment, qui était frustré, et il ne savait pas quoi faire, alors ça n'a pas trouvé la solution. Moi, j'aimerais dire à notre État, l'État doit nous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il cherchait par rapport à ça? Et il veut, nous, on a compris qu'ils veulent baisser le taux d'échange, on a compris que c'est pour notre avantage. Mais ça n'a aucun impact sur les plans de la ménagère, si les paniers de la ménagère, du ménager, voulais-je dire. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que notre État voulait faire par rapport à, ce, à cette baisse des dollars. Bon, nous, on ne comprend pas. Donc l'économie a bougé, a complètement bougé par rapport à ce que le peuple congolais est en train de traverser. Vraiment, j'aimerais poser la question à l'invité. Est-ce que un État responsable qui a vraiment le souci de se diriger, est-ce qu'il avait, il peut baisser les taux de change sans faire de suivi, même dans des écoles, même dans des structures médicales, même partout là où la monnaie fait, la monnaie intervient dans le pays. Donc c'était un peu ça ma question. Merci beaucoup, Jocelyne.
Merci Patrick Biamongo, vous nous appelez à partir de Mahagui en Ituri. Monsieur Takizala, est-ce que les structures de contrôle des prix sont efficaces aujourd'hui?
Bon, aujourd'hui, on a fait aussi un autre erreur en République du Congo, Madame Jocelyne, de ne pas avoir un taux de bancarisation supérieur en République du Congo. Parce que tout se paye en comptant. Logiquement, on doit augmenter le volume des gens qui ont un compte en banque. Parce que si nous voulons aussi donner la maturité à la monnaie locale, il faut qu'on le consomme.
Oui.
Mais il faut qu'on le consomme via une canalisation bancaire. Aujourd'hui, le taux de bancarisation en République du Congo ne dépasse pas 10% de la population active. C'est ça aussi l'une des grandes difficultés. Et nous avons par exemple des institutions bancaires comme la Poste. Quand je vois au niveau, la Poste est représentée dans tout le territoire congolais, et même cette fameuse caisse d'épargne congolaise qu'on appelle Kadeco. Il faut que le gouvernement puisse mettre l'action sur ces deux unités de production financière pour que les foyers congolais, leur consommation, passent par les structures bancaires. Malheureusement, même quand on paye les loyers, on doit chercher l'argent, aller payer. Le virement, l'échange interbancaire est faible dans le territoire parce que le taux de chômage est tellement supérieur. Cela n'est pas lisible du point de vue économique. Je crois que les intentions et les idées qui sont en train de mettre est bonne, mais il faut maintenant aller du point de vue pratique. Il faut vraiment que qu'on puisse faire vraiment la rupture avec le méthode ancienne qu'on fonctionnait avec le Mourati du Congo. Parce qu'aujourd'hui, même la banque n'est pas émisée, mais la banque doit être au service des consommateurs. Le consommateur n'a plus vraiment confiance de ces établissements bancaires qui sont établis en démocratie du Congo parce que les choses doivent être lisibles et que le gouvernement, par entremise des ministres sectoriels de l'économie, et doivent faire de sorte que ce que nos concitoyens payent, par exemple le frais scolaire, doit passer par la banque. Vous voyez aujourd'hui, même la plupart de nos acteurs qu'on appelle cambistes, il faut qu'on essaie un peu de le mettre comme des agents de banque.
Donc,
alors, il faut qu'on travaille, il faut que ces gens quittent quand même, parce que vous allez mettre, quand vous sillonnez même dans la ville de Kinshasa, d'un cambiste à l'autre, le taux n'est pas pareil. Tous les jours, la banque centrale donne le taux officiel. Donc je crois qu'il faut maintenant faire de sorte que ceux qui font le métier d'échange dans le pays puissent être quand même répertoriés et soit dans la formalité de l'économie. C'est là où on peut les réguler. Mais si ces gens-là ne sont pas répertoriés, mais on le voit dans les coins des rues, même les motocyclistes, même les taximans, il faut les regrouper, les donner un statut des gens qui agissent dans l'économie. Et c'est comme ça que les choses... Et puis mettre aussi ce qu'on appelle le mesure incitative. Parce que trois quarts de ces gens-là ont fait pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années autour de l'informel. Mais qu'est-ce qui va les amener vers la banque, ainsi de suite, si nous ne mettons pas et que l'État ne mette pas quand même des mesures incitatives pour faire de sorte que ça soit lisible. Parce que le dollar baisse, mais d'un côté, quand le consommateur va acheter, il voit encore que le taux qu'on applique est, en réalité
est supérieur. Voilà. Donc il y a un désordre, selon vous, dans les secteurs qui fait que les actions menées par le gouvernement n'ont pas d'impact sur le terrain. Il faut formaliser d'abord l'économie, il faut bancariser la population encadrer cette masse monétaire qui est en circulation. Il faut donner les marchés aux entrepreneurs qui sont dans les secteurs formels. Il faut produire localement. Également, on retient de cette première partie de cette émission, c'est que vous dites sur les impacts, l'impact qu'on veut avoir sur les prix de biens après ces actions menées par le gouvernement pour baisser le taux du dollar sur le marché d'échange. On va prendre, on va se rendre à Kisangani pour prendre Olivier Ndumba Elalou qui veut intervenir et poser la question à notre invité Mathieu Takizala. Monsieur Ndumba Elalou, Olivier, bonjour.
Bonjour, la radio de la paix, c'est l'ingénieur Olivier Ndoumbaï Lalo, comme vous l'avez dit, depuis la ville de Kisangani. Mon salon, la thématique du jour, et pour moi, c'est une première fois que vous suivez en direct dans cette fameuse émission de l'Okapi Service. Beaucoup de félicitations, courage à vous, chère madame la journaliste.
Merci, quelle est votre question, monsieur Olivier?
J'ai juste deux ou trois petites questions que je voudrais soumettre à notre invité du jour. Alors, la première question, quelles mesures que l'État prévoit-il pour sanctionner dans des endroits commerciaux où ils utilisent toujours la fiente aux différents articles? Et puis, l'avant-dernière...
Vous pouvez répéter parce qu'on a...
Vous pouvez répondre votre question, monsieur Olivier, parce qu'on n'a pas bien capté.
Merci, disais-je. Quelles mesures que l'État prévoit-il pour sanctionner des endroits commerciaux où ils utilisent toujours la tinto aux différents articles? C'est noté, là c'est bien clair.
On n'a rien saisi.
Allô?
On n'a pas très bien saisi votre question. Vous pouvez la poser simplement hein, pour nous permettre de bien la saisir et de pouvoir vous répondre.
Là. Ok, je suis là. Vous m'écoutez?
Oui, oui.
Ok. Je disais que. Quelle est la mesure que l'État prévoit-il pour sanctionner dans des endroits commerciaux où ils utilisent toujours la CETO aux différents articles?
Ah, d'accord.
Là, c'est noté, hein?
Oui, c'est noté.
Okay, la deuxième question, quel est le service de l'État serait-il censé pour pouvoir traquer ces agents qui vont à la pompe? Hein? Et puis, pour finir, de manière beaucoup trop simple, que peut-on retenir de son passage aux antennes de la radio de la paix étant l'invité du jour? C'est toujours votre aimable auditeur, Ndoumbaï Lalo Olivier, depuis la vie de Kisangani. Merci, madame.
Merci, monsieur Olivier Ndoumba. Et Lalo, baisse du taux du dollar, les prix des articles ont-ils réellement baissé sur le marché? C'est notre thème d'aujourd'hui, de cette émission Capi Service. Vous voulez participer? Appelez le 085 42 11 547. Monsieur Mathieu Takizala, que répondez-vous à notre invité, à notre auditeur qui nous a appelé depuis Kisangani? Quelles sont les sanctions que l'État peut prévoir face aux entrepreneurs, aux commerçants, aux marchands qui créent ce désordre, hein, si on peut le dire, sur le marché?
Cette question, elle est bonne. Normalement, dans un système économique, il faut avoir aussi des sanctions. Ça veut dire que les gens doivent respecter les règles. Malheureusement, à Pied-de-Mokati du Congo, et comme je disais tout à l'heure, plus de la moitié de l'économie est dans ce qu'on appelle la contrebande, parce qu'il y a des gens qui sont pas dans le règle. C'est ça aussi la grande difficulté pour l'État pour agir. Mais logiquement, si on trouve, parce que la loi fondamentale de la Pied-de-Mokati du Congo en termes d'échanges commerciaux, il y a des catégories de commerçants. On peut appeler les fournisseurs, les fabricants, et les détaillants. Logiquement, la partie détail a été réservée aux titulaires des passeports congolais. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait du point de vue et pratique. Donc aujourd'hui, je pense que le ministre de l'économie doit déployer sa force parce que l'État reste l'État.
Sur le plan du taux de change, on sait que le marché de change se régule de lui-même, non? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sanctions par rapport à celui qui applique tel taux ou tel taux? On oblige à personne d'appliquer, le marché c'est régule de lui-même. Non,
mais je pense que la banque centrale a agi pour qu'on voit ce qu'on est en train de voir. Donc aujourd'hui, je pense que dans le taux de l'échange, la plupart des marchands, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller acheter aussi quelque part. Ça veut dire qu'il faut essayer un peu de récupérer tous les importateurs et travailler avec, parce que le petit détaillant, c'est pas eux qui fournissent la grande quantité de marchandises qui circulent à Pied-de-Mokati du Congo. Il faut savoir aussi qu'un stock a un direct d'écoulement. Et aujourd'hui, l'infrastructure en Pied-de-Mokati du Congo pose un vrai problème. Nous avons un problème d'énergie. Les déficits sont très, très importants. Par exemple, ceux qui sont dans la chaîne de froid,
la chaîne de froid, il faut toujours avoir un génératrice, tout ça, ainsi de suite, acheter de carburant. Mmh. Et ça, au finish, qui va le payer? C'est le consommateur. Finalement, je crois qu'à un moment, il faut maintenant que l'État travaille en synergie avec ses partenaires. Parce que le marchand, ce sont des partenaires de l'institution gouvernementale. Mmh. Et qu'on puisse chercher des voies et moyens, parce qu'un État sans marchand n'a jamais existé. Et qu'on fait, nous-mêmes, les marchands, nous sommes aujourd'hui aussi parmi les consommateurs de la République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire que personne n'est là pour faire le mal à l'autre, mais sauf qu'on a passé plus de temps avec le Mokati du Congo en contemplant l'informel, et cela fait que le marge de manœuvre pour le marchand structurel est faible, et on sent ça quand on consomme. Donc, mais il faut sanctionner. Donc, normalement, si on trouve que quelqu'un n'a pas respecté la loi, automatiquement, il y a des sanctions. Voilà.
On va prendre Esaïe Kandaï, qui nous appelle depuis Kikwit.
Oui, bonjour Radio Okapi et bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi.
Bonjour Monsieur Isaïe, quelle est votre question?
Oui, en tout cas, cette histoire de la baisse du dollar américain n'est que réaliste sur papier, alors que sur terrain, on voit autre chose, telle que dans des universités, on observe du tout pas cette dite baisse. Le dollar est toujours converti à un prix élevé dans nos universités. Mmh. Alors ma question est celle de savoir quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour que cette baisse réaliste sur papier soit effective sur terrain. C'est ça ma question. Merci.
Merci monsieur Esaïe de Kikwit. Monsieur Takizala.
Je vais répondre à monsieur Esaïe de Kikwit. C'est ma ville natale. Je suis né à Kikwit. Monsieur Isaïe, normalement, vous devez savoir que le mesure que le gouvernement a pris, c'était conjoncturel, c'était pas structurel. C'est pour cela, en tant qu'entrepreneur et économiste, nous devons faire maintenant le mesure structurel pour que ça soit pérenne, pour que les consommateurs finaux puissent être gagnants. Vous savez que cette économie, depuis 1972, on a basculé vers l'économie de l'informel. Ça veut dire que la zarisation a fait qu'on a perdu l'outil de production. Dans votre ville natale, il y avait des entreprises. Aujourd'hui, qui quittent, c'est reste un peu la négoce, cette ville commerciale tourne autour du débrouillandisme, de l'échange, et nous devons revenir dans les années anciennes, 70, 80, où il y avait quand même présence des marchands structurels pour que l'État puisse avoir les vrais alliés au niveau de la République démocratique du Congo. Et puis, il faut que la plupart des choses passent par des voies bancaires. Nous avons une monnaie locale qu'on appelle le franc congolais. Il faut que les francs congolais se consomment. Par exemple, le frais de Minerval, il faut que ça soit fixé en franc congolais. C'est vrai, le monnaie de référence, l'absence de la production congolaise fait que nous dépendons beaucoup plus aux monnaies étrangères, l'euro, par exemple l'yen et le dollar américain. Mais il faut faire l'inverse. Il faut que la moitié de ce que nous avons besoin en République démocratique du Congo soit produit localement.
Mmh. Baisse du taux du dollar. Les prix des articles ont-ils réellement baissé sur le marché? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et nous recevons Mathieu Takizala. Il est économiste et entrepreneur. Vous voulez participer à l'émission? Appelez le 085 42 11 547. Benjamin Mdoumbi est à la réalisation de cette émission. Paul Badianyama à la mise en onde. Je suis Jocelyne Moussaou. Je vous présente cette émission d'aujourd'hui sur Radio Okapi. On va prendre un autre invité, un auditeur en ligne. C'est Joël Mbombo qui nous appelle depuis Kananga au Kasaï central. Joël Mbombo, bonjour.
Bonjour madame. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi, Radio de la Paix. J'avais certaines questions à poser à notre invité sur l'impact du dollar américain dans notre pays et surtout
allez-y,
ici au Kasaï central. Mm-hmm. Au Kasaï central, l'impact du dollar américain est marqué par une forte stabilité du prix malgré une récente appréciation du franc congolais. Alors, cette volatilité a engendré une hausse vertigineuse du coût des produits de première nécessité comme le maïs, exacerbant la précarité. Alors, bien que le dollar ait baissé le prix des produits de base, notamment le maïs, comme je viens de le dire, ne suivre pas cette tendance restant élevée ou augmentant, ce qui rend le panier de la ménagère de plus en plus cher. Alors, certaines institutions, universités, ont maintenu des taux d'échange artificiels élevés pour les frais académiques récidant le paiement de l'art malgré la baisse du taux, ce qui est perçu comme une injustice. Alors, j'avais voulu poser la question à notre invité aujourd'hui. La baisse du dollar face à la monnaie locale, comme le franc congolais, dans une province comme la nôtre, le café central, souvent, d'une combinaison de facteurs spéculatifs, des mesures de la banque centrale et de la balance commerciale. Je te demandais à notre invité, la baisse actuelle est-elle due à une mesure spécifique de la banque centrale du Congo, BCC, ou à une augmentation des devises d'exportation? Alors, quel rôle joue la spéculation sur le marché du champ et le cadre dans cette chute du dollar? Et est-ce que la demande du dollar a baissé en raison d'une diminution des importations dans notre province ou quoi? Parce que nous sommes butés à des problèmes au café central. 10 dollars, à l'époque, on vous donne à 21 000, les autres à 22 500 quelque chose. Alors, pourquoi le prix des produits de première nécessité ne baisse-t-il pas immédiatement malgré la chute du dollar? Cette baisse du dollar est-elle structurelle ou si c'est temporaire et c'est de même. Alors, quelles sont les conséquences de cette baisse sur les commerçants qui ont stocké des marchandises à un taux d'échange plus élevé? C'est ça au moins. C'est ce que je voudrais vous demander. Je suis au café central, Joël Mbombo.
Merci, Joël Mbombo. On va prendre la question de Papi Mboyo qui nous appelle depuis Mbandaka.
Bonjour, Madame Kelly.
C'est Madame Jocelyne Moussaou.
Madame Jocelyne Moussaou, excusez-moi. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole.
Allez-y.
Le sujet du jour est vraiment intéressant. Ça touche l'économie du pays. Et nous, on est en Mbandaka ici. Il y a des choses que nous sommes en train d'observer. Et comme ça concerne tout droit le gouvernement, donc, on est ce qu'on appelle les voix, mais sans voix. On n'a pas quelqu'un qui peut remonter des choses pour que nous puissions trouver des gains de cause. Mais à ta seule tienne, madame, moi, j'aimerais relever certaines choses. Vous voyez que la montée des dollars, ou bien la descente, la chute des dollars, je ne sais pas, la Banque centrale, qu'est-ce qu'il a prévu? Est-ce qu'ils ont étudié les pour et les contre? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude pour avoir chuté cela de manière brusque et brutale? Et moi, je trouve ce que je trouve un peu paradoxal, c'est quoi? Quand ils ont chuté les dollars tout droit, il y a certaines institutions comme les hommes d'affaires, les commerçants, les coopérants qu'on appelle communément, ils disent qu'ils doivent d'abord finir leur stock initial, comme ça, quand ils vont devoir finir, et après, ils vont prendre le temps de répandre la normale. Or, si on peut aller vers l'échanger, c'est-à-dire qu'on change les monnaies, ils ont le problème sérieux quand il y a chute brusque. Parce que ici à Mbandaka, il y a eu un moment où il y a eu cette chute-là, et ce sont les échangers-là qui ont passé dans nos radios locales ici pour dire que quand ça change brusquement, nous, ça nous crée des problèmes. Et ils sont obligés de chuter la monnaie. Mais les commerçants disent qu'ils doivent d'abord finir leur stock. Comme si, ici au Congo, les gens font les choses de leur manière, comme ils veulent. Mais je ne vais pas aller trop loin. Je vais passer dans certaines préoccupations que je pourrais avoir auprès de l'invité. Monsieur l'invité, cher invité, ma première question serait celle de savoir quel est l'impact socio-économique que la Banque centrale a pu relever en faisant la cartographie de la nation tout entière. Et si jamais il y a eu cette chute brusque, il y aura des jeunes qui vont se stabiliser d'un seul coup, comme ils l'ont fait. Ça, c'est de B. Ça, c'est de A. De deux, quels sont les mécanismes à mettre en place pour garder ou pour sécuriser cette mesure? Quel invité nous disait? Le mécanisme normal et possible, capable pour pérenniser au moins, pour garder au moins cet élan, cette mesure. Et pour finir, madame, pour finir,
oui.
comment faire pour pérenniser cette mesure, pour le garder vraiment en continuité? Qu'est-ce que l'invité peut nous dire? Voilà, moi, au niveau de Mandaka, la vie de Mandaka, je pouvais avoir comme besoin. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce niveau du débat.
Merci.
Et je remercie toute l'équipe de la Radio Kapi.
Merci, Papi Mboyo. Monsieur Mathieu Takizala, que répondez-vous à Papi Mboyo et aux préoccupations de Joël Mbombo qui nous avait appelé depuis Kananga au Kasaï Central?
Donc, monsieur Mbombo dit que les mesures qui ont été prises, est-ce que ce sont des mesures avec des encadrements? Et puis, aujourd'hui, pourquoi il y a cette différence dans différents consommation ou de taux d'échange. Est-ce qu'il y avait une balance commerciale supérieure? Je pense que j'avais dit ici que c'était des mesures conjoncturelles. On a injecté assez de liquidités, de réserves d'échange dans le marché pour donner un peu, parce que les gens doivent comprendre que la monnaie, c'est un outil de souveraineté. Mais la monnaie a un socle lorsque l'échange se fait autour de cette monnaie. Malheureusement, nous, à Pays démocratique du Congo, l'une des difficultés, nous produisons pas assez. Et d'un côté, l'échange congolais s'est fait beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'informel. Et les acteurs de l'informel n'ont pas de règles. Et cela fait que la spéculation est parmi le voisin de la consommation congolaise. Et si aujourd'hui, les dés, ils ont voulu dire la même chose à peu près, mais dans les autres coins de la République. L'une des grandes difficultés de la République démocratique du Congo, qu'il soit en Bandaka, qu'il soit en Mbujimayi, à Kikwit, à Kisangani, que dans l'arrière-pays, il n'y a plus assez de production et que l'infrastructure fait aussi défaut. Le pays est enclavé aujourd'hui, à l'heure actuelle. Parce que pour acheminer un produit en Bandaka ou à Kisangani, c'est plus comme dans les années 80. Donc aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher, qu'il soit dans la voie Laguine et même dans la voie routière. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on puisse donner quand même une bouche d'accélération pour permettre d'accélérer l'infrastructure entre Mokati et le Congo. Lorsqu'on accélère l'infrastructure, on va faire que la production locale, c'est parmi les projets que le gouvernement avait commencé, de 145 territoires. Le 145 territoires, ils avaient prévu les routes des dessertes agricoles pour permettre que la production qui se fait, par exemple, du côté d'Ilebo, peut acheminer facilement du côté de Tikapa ou Mbujimayi. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans ce point. Et permettre aussi que les entreprises, quand vous regardez, l'échange structurel s'est fait uniquement dans trois villes congolaises, qu'on peut dire aujourd'hui. Donc Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Mais ça doit être dans toutes les villes. Et on ne peut pas laisser les autres villes, et l'échange s'est fait à 99% uniquement dans les acteurs de l'informel. Il faut permettre aujourd'hui que les entreprises qui sont présentes à Lubumbashi, à Kinshasa, et même à Matadi ou à Goma, ainsi de suite, puissent devenir quand même des vraies entreprises nationales et qu'on puisse avoir la station totale qui est à Kinshasa, aussi en Mbujimayi. Et si l'économie formelle va s'installer dans l'intégrité du territoire, madame Jocelyne, et automatiquement, on va faire un pas vers l'avant. Et là, on peut réguler l'économie à partir des acteurs formels. Et là, la monnaie locale peut avoir un sens. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, qu'il soit l'habitation particulier, même des entreprises, l'État doit mettre un paquet là-dedans. Parce qu'il n'y a pas vraiment à ceux, parce que quand on gagne une petite salaire, même qu'il soit dans le débrouillardisme, même dans la formalité des choses, première dépense d'un foyer, c'est le loyer.
Tout à fait.
Or, le loyer aujourd'hui, nous reposons uniquement dans les acteurs de l'informel. Donc, les sociétés structurelles, au moment où on sait que le pouvoir d'achat congolais est faible, parce que c'est le pouvoir d'achat des brouillandismes, donc, d'un côté, il faut qu'on relance les bailleurs sociaux sur l'étendue du territoire congolais, qu'on appelait type ONEN. Et il faut aussi que la consommation congolaise soit accompagnée par le crédit, parce que la consommation congolaise n'a pas de crédit. Et cela fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que le Congolais, dès qu'il a une poste de dépense, il est obligé d'avoir du cash flow. Il est obligé d'avoir du cash flow. Et la corruption augmente, l'inflation augmente, les acteurs de l'informel essaient un peu de faire de la spéculation. C'est pour ça qu'on voit comme si que l'action publique est faible du point de vue économique. J'ai dit à mes deux compatriotes, c'est ensemble qu'on peut avoir un marché solvable. Consommateurs, acteurs institutionnels et acteurs de l'entreprise, et même l'administration de territoire. Il faut que
qu'on comprenne, qu'on puisse faire cette synergie pour éradiquer les zones de non-droit qui sont aujourd'hui pas compréhensives auprès des consommateurs congolais.
Ok, merci Monsieur Mathieu Takizala. On va prendre les deux derniers intervenants, nos auditeurs qui nous appellent d'abord de Kisangani, Blaise Atoubou. Blaise Atoubou, bonjour.
Bonjour, bonjour Madame Jocelyne Moussao. Bienvenue au magazine Okapi Service.
Merci Monsieur Blaise Atoubou.
Bonjour à Mathieu Takizala.
D'accord, oui, quelle merci, est votre question merci.
Donc, je dois m'épargner vraiment de la littérature puisqu'il nous reste 5 minutes pour clôturer.
Tout à fait.
Et pour donner aussi le temps à l'autre. Voilà, la première question que je demande à M. Mathieu, quelles réformes économiques sont nécessaires pour que la baisse du prix profite, du dollar, bien sûr, profite réellement à la population? Et pour citer, comment protéger le pouvoir d'achat de la population face aux fluctuations du taux d'échange? Merci, je me limite à ce niveau-là.
Merci, monsieur Blaise Atoubou. Achille Kabongo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
D'échange, merci, je me limite à ce niveau-là.
Merci, monsieur Blaise Atoubou.
Achille Kabongo, voulez-vous baisser le son de votre radio, s'il vous plaît, et suivez-nous à partir de votre téléphone?
Achille Kabongo, voulez-vous baisser le son de votre radio?
Entre-temps, M. Blaise Atoubou, on répond à la question de Blaise Atoubou.
Ah oui. Monsieur Blaise, donc là, nous avons une urgence parce qu'on a fait 5 décennies à Pyrémocratie du Congo qu'on a perdu le secteur privé. On doit faire ce que les théories keynésiennes enseignent. Lorsque vous avez une popularisation de la population, il faut créer un plan de relance. C'est-à-dire que le grand travaux doit relancer les agents économiques qui soient entreprises et particuliers. Donc, il faut passer par le grand travaux et relancer les petites et moyennes entreprises par entreprise des carnets de commandes et le crédit destiné aux entreprises. Et cela peut relancer l'outil productif de la Pyrémocratie du Congo.
Monsieur Blaise Atoubou posait la question sur les réformes économiques nécessaires.
C'est ce que j'ai dit à Monsieur Blaise. Il dit qu'aujourd'hui, la population s'est popularisée. Donc, le système économique a relancé. Il faut un plan de relance venant du côté étatique. Ça veut dire que pour les grands travaux, on peut prendre par exemple le secteur de l'infrastructure, le secteur du logement, le secteur de l'agriculture. On injecte beaucoup d'actions et cela va permettre aux entreprises de créer de l'emploi et de créer de plus-value du point de vue institutionnel ou structurel en Pyrémocratie du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises en Pyrémocratie du Congo n'ont pas de travail. Quand les entreprises manquent du travail, même pas de financement, donc automatiquement, on va patiner. Donc, il faut relancer l'outil productif de la Pyrémocratie du Congo.
Et comment protéger le pouvoir d'achat du Congolais?
Pour protéger le pouvoir d'achat du Congolais, il faut que les Congolais consomment dans la formalité. Parce qu'aujourd'hui, nous consommons beaucoup plus du côté de l'informel. Et cela fait qu'il y a de spéculation, c'est ce qu'on appelle une concurrence déloyale qui n'est pas loyale. Il faut revenir maintenant dans le bon sens de l'économie. Il faut canaliser nos gestes et mettre aussi dans la disposition de la consommation les consommateurs congolais, ce qu'on appelle le crédit. Aujourd'hui, acheter une maison, acheter un véhicule, acheter un poste de téléviseur, le crédit est absent.
Et pour avoir une certaine transparence des prix, nous savons qu'il existe des structures qui suivent, hein, des ministères de l'économie qui contrôlent les prix sur les marchés. Malgré cela, il y a toujours toutes ces plaintes, hein, qu'on enregistre, qu'on a suivies tout au long de cette émission. Comment assurer la transparence des prix? Comment rendre plus efficaces encore ces structures qui sont censées faire ce travail?
Normalement, le régulateur, c'est le ministère de l'économie, mais à part le ministère de l'économie, nous avons le syndic des consommateurs, qu'on appelle les associations de consommateurs. Ils doivent monter au créneau aussi,
qu'on
n'entend plus en ce moment, parce que l'économie s'est délocalisée dans la logique économique. On est beaucoup plus dans la contrebande. Il n'y a pas vraiment une augmentation des associations défenseurs de la consommation. Et c'est pour ça, vous voyez, que c'est frustré. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous, la Pyrémocratie du Congo, nous avons des déficits dans la production en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que vous voyez que nous dépendons. Imaginez, nous achetons le poulet des Portugais, des Espagnols, au moment où le salaire espagnol est supérieur au salaire congolais. Je crois qu'aujourd'hui, il faut subventionner l'action productive de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit qu'il faut créer une banque publique d'investissement parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous restons en économie avec un fonds. Nous devons quitter la logique de fond. Nous devons créer une banque publique d'investissement. L'existant existe. Nous avons l'Assonance, nous avons INSS, nous avons Cadeco, nous avons Fonds de promotion industrielle. Et en faisant cette fusion, en créant une unité qui va financer l'économie en République démocratique du Congo avec une branche cautionnaire et une branche d'assurance, cela va permettre que la production en République démocratique du Congo peut revenir et puis recenser quand même les vrais acteurs qui sont dans le formel. Quels sont les vrais problèmes? Le problème, je vous ai dit, la fiscalité, on doit s'adapter.
Merci Monsieur Takizala Mathieu d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute de cette émission. C'est la fin de cette première partie de Okapi Service. On se retrouve après le bulletin d'information. Il est 11h à Kinshasa.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Okapi Service. Dans nos sociétés, le mariage ne se limite pas à l'union de deux personnes. Il engage aussi les familles, la communauté et des figures de référence appelées à accompagner le couple tout au long de sa vie conjugale. Parmi elles, les parrains et marraines de mariage occupent une place particulière. Mais aujourd'hui, le choix de ces parrains obéit-il encore aux valeurs traditionnelles de sagesse, de stabilité et d'exemplarité? Ou assiste-t-on à une évolution des critères ou à la proximité sociale, les statuts, la réussite financière ou l'influence prennent parfois le pas sur la capacité réelle à conseiller, orienter et soutenir le couple? Dans un contexte où de nombreux ménages font face à des tensions, des séparations précoces ou des difficultés de communication, la question mérite d'être posée. Quels sont les véritables critères de choix des parrains de mariage? Quel rôle sont-ils censés jouer avant, pendant et après le mariage? Et quelles conséquences peut avoir un mauvais choix sur l'équilibre du couple? Quels sont les critères de choix des parrains de mariage? C'est le deuxième sujet que nous abordons dans cette deuxième partie d'Okapi Service qui reçoit le couple pastoral Hubert Mouzimi et Marceline Mambinza. Révérend docteur Hubert Mouzimi est président du réseau de transformation et d'intercession pour les familles, RTI International, un ministère chrétien des couples et familles, avec son épouse Marceline, l'évangéliste Marceline Ngula Mambinza. Ils tiennent des séminaires pour couples et des formations, des formateurs en relation d'aide partout dans le monde. Révérend Hubert et Madame Marceline, bienvenue à cette émission.
Merci. Nous sommes bien accueillis.
Merci.
Par Madame Jocelyne.
Merci.
Et très, très heureux de faire sa connaissance.
Merci, révérend Hubert Mouzimi et l'évangéliste Marceline Mambinza, c'est ça. Voilà. Vous êtes également auteur des livres Pourquoi suis-je marié? Alors, on va y aller avec la première question. Commencer cette deuxième partie de l'émission, que représente aujourd'hui la figure du parrain ou de la marraine de mariage, pasteur Hubert?
D'abord, grand merci pour votre invitation. Nous sommes très heureux et très excités à parler de parrainage au vu de tout ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui dans l'encadrement des couples. Il y a tellement de difficultés, je pense qu'il est très très important d'aborder de tels sujets. Sûrement vous vous êtes référé aussi à certaines choses avant d'initier ce débat.
Tout à fait.
Je pense que l'importance du départ, c'était l'encadrement des couples, servir de guide spirituel, servir aussi de mentor.
Et des modèles.
Et puis soutien aussi moral. L'accompagnement moral, l'accompagnement spirituel. Et rassurer un peu la stabilité du futur couple dans la durée. C'est l'objectif, ce n'est pas de se marier aujourd'hui et puis se séparer demain. Et en plus, il y a beaucoup de rêves qui s'évanouissent. Se marier, c'est bien, les jours du mariage, c'est la fête, mais la continuité a beaucoup d'obstacles. Souvent, on ignore ça, on ignore toutes les difficultés qu'on va rencontrer pendant le mariage. C'est pour cette raison qu'il faut absolument se faire accompagner par ceux qui ont l'expérience, par ceux qui ont déjà traversé des fleuves et des montagnes d'obstacles. Voilà, je pense. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une difficulté. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, que le choix des parents n'est pas fait d'une manière objective, si pas de manière à atteindre cet objectif. Le sens du parrainage a perdu un peu dans quelques sens. Aujourd'hui, on parle plus de parrain sponsor. Quand on parle de parrainage, on voit quelqu'un qui va soutenir surtout matériellement et non spirituellement, et non un mentor. Puisque après même le parrainage, quand il y aura après les jours de mariage, quand il y aura des problèmes, il y en a même qui renient les parrains. Nous avons dans notre expérience parrainé plus de 35 mariages à travers le monde, mais c'est pas évident, surtout quand la femme se plaint un peu, voilà, et mon mari, le mari que j'ai connu avant le mariage, ce n'est plus le même que je vois aujourd'hui. C'est lui avec qui je vis aujourd'hui, ce n'est plus le même.
Et le parrain a un rôle important.
Alors souvent, la réaction est virulente du côté du mari. C'est vrai que tu vas m'accuser, et puis tu penses quoi? Est-ce que les parrains est modèle? Les parrains n'ont jamais fait ce que je fais. Souvent, la femme se sent menacée quand elle veut faire jouer les rôles. Elle demande aux parrains de jouer les rôles pour leur venir au secours, c'est pas pour la stabilité de leur couple.
Donc le mari n'accepte pas le rôle.
Souvent les maris n'acceptent pas. Il est docile avant les mariages et après les mariages, une année, deux ans après, suite aux abus, c'est compliqué.
Et comment doit se faire ce choix? Est-ce que le couple doit se concerter ou c'est la femme qui choisit le parrain? C'est l'homme qui choisit? Comment ça doit se faire normalement pour qu'on n'en arrive pas là?
Bon, d'abord, il faut choisir. Pour choisir, ça dépend d'abord du type de mariage. Là, nous sommes pasteurs. Si nous restons dans les cadres des mariages chrétiens, on va vous donner aussi les critères selon le mariage chrétien. Si on parle d'une manière générale, nous parlerons de la maturité. Le parrain doit être un homme mûr, un homme qui reflète un peu une morale acceptable, et un homme capable aussi de suivre, c'est-à-dire il prend en charge les mariés du jour du mariage jusqu'à ce que la mort va les séparer.
Et prendre en charge ne signifie pas financer
Pas nécessairement. Nous parlons plus de soutien moral, de soutien spirituel. Nous parlons surtout de l'accompagnement dans les zones de turbulence. Parce que le mariage, c'est comme si on montait dans l'avion. Les deux mariés entrent dans l'avion. Et dès qu'on décolle, on dit quoi? Serrer la ceinture. Et quand on serre la ceinture, ce n'est pas pour blaguer. Il peut y avoir des secousses. C'est pendant les secousses que les commandants qui accompagnent peuvent dire, écoutez, maintenant, serrez la ceinture, ne fouillez pas, ne cassez pas la vitre pour sauter et dire que non, je m'étais trompé.
Voilà, tout à fait.
Et puis ceci, c'est le parrainage des chrétiens. Là, c'est autre chose. Pour les chrétiens, c'est tout à fait normal qu'on choisisse aussi un parrain qui a une spiritualité avérée. On ne parle pas seulement de la maturité, on parle aussi de la spiritualité du pasteur, du parrain, on parle de sa capacité de les guider, et on parle surtout de la prière, de les mettre ensemble dans la prière et la Bible qu'on leur donne le jour du mariage, puisque le meilleur cadeau qu'on donne le jour du mariage, c'est la Bible. Et qu'ils soient capables de lire ensemble la Bible. Et dans le choix, cette fois-là, comme c'est un mariage chrétien, il faut que l'homme et la femme soient aussi spirituels pour suivre le conseil de quelqu'un qui est spirituel. Mmh. Il faut que les deux se concertent dans la prière pour que Dieu les guide à choisir un par un qui puisse les accompagner pendant toute leur vie de mariage.
Le 0 85 42 11 547, c'est notre numéro de téléphone. Si vous voulez participer à cette émission, posez la question à nos invités. 0 85 42 11 547, notre thème, le sujet de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Quels sont les critères de choix des parrains de mariage? Nous recevons le couple pastoral Hubert Mouzimi et Marceline Mambinza.
Miroir, un programme hebdomadaire de demi-heure sur la sensibilisation aux valeurs de société et de vivre ensemble. À suivre sur Radio Okapi. Tous les mercredis à 8h30 en rediffusion le jeudi à 20h de Kinshasa.
Quels sont les critères de choix des parrains de mariage? C'est le thème de cette deuxième partie d'Okapi Service. Je suis Jocelyne Moussaou, je vous présente cette émission. Paul Badianyama est à la mise en onde, Benjamin Moudoumbi à la réalisation. Pourquoi le choix des parrains est-il considéré comme une étape importante dans la construction des couples? La question s'adresse à Madame Missinga. À Madame Marceline Goula, pardon. Madame, vous avez la parole.
Et merci, Madame Jocelyne. Heureuse aussi d'être en face de vous, de recevoir cette invitation. À la réponse de savoir comment les choix. Je crois, comme mon mari venait de le dire.
Pourquoi le choix des parrains est-il considéré comme une étape importante dans la construction d'un couple?
Comme la vie, une vie normale, on doit être accompagné pour arriver à une bonne réussite. Mmh. Alors, nous considérons les parrains comme un appui, un système d'accompagnement, des conseils qui arrange à ce que les mariages soient bien accompagné, éviter qu'il évite les dérapages, et aussi de temps en temps pour échanger aussi des difficultés, puisque les mariages ne se construisent pas sans difficultés. Mmh. En toute logique, si on doit faire le choix d'un parrain, on doit tenir compte de tous ces paramètres. Le mariage n'est pas une aventure, c'est vraiment un acte sacré qui est bien institué. Donc si on doit choisir de se marier, on ne doit pas y aller à l'aventure, on doit être réfléchi. Mmh. Les parrains, c'est comme un poteau indicateur, quelque chose qui doit aider de temps en temps à revenir à la conscience si on veut déraper. C'est un soutien, je voulais dire, moral, spirituel, un soutien même social, puisque on peut arriver à un moment où on est coincé par la situation, soit financière, la situation de santé. Les parents peuvent prendre les rôles des parents, le rôle des patrons, le rôle des conseillers, celui qui doit amener à mettre à l'aise et à donner une réponse adéquate aux fidèles ou à ceux qui ont besoin de ces conseils du parrainage afin de bien marcher. C'est donc, pour réguler la conduite normale d'un couple, d'un mariage qui est en cours. Quoi.
Et, oui, et les parents sont donc appelés à jouer un rôle de repère et de soutien, comme vous le dites. Et que dire de ces parents qui disparaissent juste après la cérémonie de mariage? Il y en a.
Cela va. Cela nous conduit à voir qu'il y a un mauvais choix. Mm-hmm. Il y a un mauvais comportement et puis on ne respecte plus les normes, il n'y a pas de bons critères au départ. Puisque pour avoir un parrain, il faut commencer par une familiarité. On ne doit pas chercher des parrains qu'on ne connaît pas. D'abord une familiarité, alors une amitié et ensuite on met des règlements, des limites pour dire ce qu'il faut faire les parents et ce qu'il doit faire les filles. Mm. Il faut avoir une attente, c'est comme vraiment un contrat qu'on doit lier entre les deux pour dire que nous allons faire ceci, mm. vous allez respecter. À un moment donné, si cela arrive à rater, donc les départs, les débuts n'étaient pas
bien faits. Voilà. Pasteur Hubert, la stabilité personnelle et relationnelle des parents est-elle un élément déterminant dans ce choix?
Effectivement. Mm. Si vous prenez un parrain déséquilibré, c'est tout à fait normal quand vous serez déstabilisé, il ne puisse pas vous servir d'appui comme... mon épouse vient de dire, je reviens un peu en arrière dans ce qu'elle a dit là, dans les dérapages et les parents qui disparaissent dès les premiers jours du mariage, et c'est très fréquent actuellement, puisque quand on prend un parrain comme sponsor, on met de côté tous les critères spirituels, on met de côté tous les critères d'accompagnement, de maturité, et les années de mariage, ou bien, prenons l'exemple banal, prenons un parrain qui est polygame, il a 3-5 enfants, 5 femmes.
Tout à fait.
Alors, vous le prenez comme un parrain. Le jour où il y a problème, le monsieur revient en retard et madame commence à se plaindre, elle va se plaindre devant la marraine. Mm. Quelle serait la réponse de la marraine? La marraine, nous avons déjà, c'est un cas vrai, où la marraine dit à madame, écoute, est-ce que monsieur te prend soin de toi financièrement? Oui, tu as tout? Oui, madame dit, oui, il vient même m'acheter une voiture, oui, tu te plains de quoi?
Bon, il
rentre tardivement, et il est méconnaissable, et parfois il découche et tout. Et puis, marraine, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais s'il te donne tout, tu as le matériel, tu manges, tous les enfants se portent bien, mais tu cherches encore quoi? Mm. Chez moi aussi, c'est comme ça.
Donc, ça veut dire que le couple doit, enfin, le futur couple doit aussi investiguer sur la vie conjugale du couple parrain.
Effectivement, c'est ce que madame voulait dire. Mm. Il est tout à fait normal de choisir un couple modèle. Dans ces cas-là, La marraine ne peut donner que ce qu'elle a et ce qu'elle vit. Mm. Dit que chez moi c'est comme ça et à Lingala on peut dire bon liba les accompagner kanga motema izaka kandengwana. Mais la réalité ce n'est pas ça, ce n'est pas l'idéal. Mm. Alors voilà pourquoi le choix de parrain est très très déterminant pour le futur le couple futur doit dépendre aussi des conseils, puisque beaucoup de projets échouent faute de conseillers. Alors on vous donne la possibilité, Dieu vous donne la possibilité de choisir vous-même les conseillers. Il ne faut pas aller choisir un mauvais conseiller. Mmh. Il ne faut pas choisir un divorcé. Il ne faut pas choisir quelqu'un qui a plusieurs femmes. Il ne faut pas choisir un alcoolique. Il ne faut pas choisir quelqu'un de mauvaise vie.
Selon ses attentes, il faut bien opérer ce choix.
Oui, l'aspiration des valeurs d'abord. Oui. Les valeurs qu'incarnent votre environnement, votre vie et la société. Aujourd'hui, la société est déstabilisée par manque de modèles et manque de valeurs. Hein? Puisque les parrains remplacent pratiquement les parents.
Hein? Tout à fait. On va prendre un auditeur en ligne 085, je rappelle notre numéro de téléphone 085 42 11 547, notre standard est déjà ouvert et nous allons prendre Blaise Atoubou qui nous appelle de Kisangani. Blaise Atoubou, bonjour, quelle est votre question à nos invités?
Oui, merci chère Justine, bonjour à vous également. C'est une thématique très intéressante puisque aujourd'hui dans la vie de Kisangani vous ne passerez pas presque 3 jours sans qu'il y ait cérémonie de mariage. C'est presque chaque jour. Voilà. C'est-à-dire ici, chère Justine, le choix des parrains doit reposer avant tout sur les valeurs morales, la responsabilité et la capacité d'accompagnement des fils spirituels, et non sur le statut social ou l'intérêt matériel. À mon humble avis, la banalisation de ces rôles affaiblit son importance, alors qu'un parrain engagé peut jouer un rôle déterminant dans l'éducation et l'orientation de l'enfant. Je pense bien que non, les invités qui sont là ne peuvent pas aller à la contre à ce que je dis.
Quelle est votre question?
Aller par quelques questions. Voilà, la première question, je demande aux invités, chers invités, combien d'enfants avez-vous déjà parrainé? C'est ça ma première question.
Ils ont la parlé de 35 question, couples.
Merci beaucoup, déjà. Le parrainage est-il encore pertinent dans les sociétés modernes? Autre question, comment préparer ou former les parrains à leur rôle? Autre question, que faire lorsque les valeurs du parrain ne correspondent plus à celles de la famille? Et pour citer pour cette série de questions, chère Jocelyne, quel impact réel le parrainage a-t-il sur le développement de l'enfant? Je me limite à ce niveau-là. Merci beaucoup.
Voilà, il y a quatre questions. On va quand même répondre à ces questions avant de prendre Ruffin qui est à Lick, Pasteur Hubert. Est-ce que les parrains aussi ont besoin d'un encadrement, hein? Parce que on voit aussi, on voit souvent dans les églises organisent des enseignements qu'on appelle communément malongi pour les futurs couples, le futur marié. Mais les parrains, eux, n'ont pas de formation. Ils se basent sur l'expérience vécue. Est-ce qu'il faut aussi encadrer les parrains en amont, du moins ceux qui n'ont pas encore d'expérience dans le domaine?
Oui, nous remercions beaucoup notre interlocuteur de tout à l'heure de Kisangani. Merci beaucoup, puisque c'était très pertinent ce qu'il a dit. Je reviens un peu en arrière, puisqu'on ne s'est pas présenté totalement, et nous sommes mariés, nous avons 40 ans de mariage, nous sommes des jeunes de 40 ans, et nous avons 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, et puis environ 12 petits-enfants. Ça veut dire que si nous mélangeons avec tous ceux qu'on a parrainés, on a beaucoup de petits-enfants. Et les parrainages, c'est une haute responsabilité. Nous ne distinguons pas nécessairement entre nos propres enfants biologiques qui sont mariés et ceux qui et nos filles, nous les prenons au même titre.
Au même titre.
Nous les encadrons au même titre. Nous sommes devenus des parents. Et non pas nécessairement les parrains. Et voilà, pour la question, vous pouvez me poser, comme il a quatre questions.
Il a quatre questions. Oui, j'ai parlé de l'encadrement des couples parrains.
Oui, l'encadrement des couples parrains, c'est très important. À la place de parler même de l'encadrement des couples parrains, nous allons en amont. En amont, ça veut dire que les églises organisent des séminaires d'encadrement des couples. Les églises organisent aussi actuellement, nous faisons des séminaires de formation des formateurs. Nous formons des formateurs, des encadreurs de couple et des formateurs, c'est-à-dire des conseillers conjugaux. Nous formons des conseillers conjugaux. Et il est très important pour ceux qui se marient de choisir parmi les parrains, parmi les encadreurs de couple formés, parmi les conseillers conjugaux formés. Dernièrement, on en a formé plus de 100 dans une église de la place ici, à La Gombe. Nous avons fait la formation des formateurs des familles, des couples, à l'église Parole du Salut, par exemple. Une centaine, c'était au mois de mai de l'année passée. Et nous le faisons partout au monde. Nous formons, nous avons des outils de formation des encadrés des couples. Nous appelons ça formation des formateurs en relation d'aide. On l'a fait à Brazzaville et nous le faisons à plusieurs pays. Alors, si ces gens qui sont très bien formés, ils sont bien outillés pour suivre les couples,
les autres,
pour encadrer non seulement les couples mariés, mais aussi les familles. Et il y a d'autres aussi qui se sont mariés sans parrain. Ils se sont retrouvés mariés sans encadrement. Et ils vont faire recours justement à ceux qui sont formés et pour cheminer avec eux. C'est très important ce qu'il a dit là. Il est très important de former, mais il est mieux de tenir ces formations-là indépendamment des mariages. C'est-à-dire, nous tenons aux valeurs de la société, nous tenons aux valeurs spirituelles et nous mettons en place les hommes et les femmes matures. Puisque l'objectif même dans l'église, quand nous enseignons, quand nous prêchons, c'est amener les gens à la maturité. Un homme qui est mature ne peut pas prendre le mariage à la légère, puisque le mariage n'est pas fait pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est-à-dire même l'âge même des mariages a été fixé en fonction de la maturité. On dit que voilà, maintenant ils sont mûrs, ils peuvent se marier, mais malgré ça, à 18 ans, ça n'est pas assez. Il faut accompagner déjà à partir de 18 ans, 20, les filles qui se marient avec 24 ans, 30 ans, pour les garçons d'une manière générale, pour atteindre 40 ans de mariage comme nous, mais c'est tout un cheminement pas facile. Un cheminement pas facile, il faut se faire accompagner. C'est tout à fait normal que les parents soient formés.
Alors, si on ne partage plus les mêmes valeurs avec le couple parent, qu'est-ce qu'on fait ? On les avait choisis au début quand on se mariait. À un certain moment, on se rend compte qu'on ne partage plus les mêmes valeurs. On va poser la question à maman Marceline Ngoula.
Oui, comme j'avais dit au début dans mon intervention, que c'est question de familiarité. Donc, c'est pas que les parents est comme un dieu. Tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Donc, on essaie de voir une collaboration. Donc, et les parents et les filles doivent vivre en collaboration. Ils doivent tailler un chemin là où ils doivent tous suivre le modèle qui est peut-être pour nous les chrétiens Jésus-Christ. Donc, il peut arriver que les parents puissent oublier quelque chose, mais on se reprend. C'est-à-dire, il faut pas arrive à dire que ce qu'on avait convenu avec les parents, nous convenons par rapport à ce qu'il dit, la parole est dite sur les
mariages. On avait choisi un parent monogame, il devient polygame à un certain moment, on ne partage plus les mêmes valeurs.
Ah oui, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, je pense, quand les parents ont dérapé, c'est dommage de vous dire que la réalité est que parfois ce sont des filles maintenant qui commencent à conseiller les parents.
C'est ça que j'allais dire, il faut collaborer, il faut aider.
Nous vivons un monde...
Les rôles changent.
Nous vivons un monde fondement renversé.
Les choix des complaisances amènent à ce qu'on arrive dans les dégâts et on doit consommer les conséquences. Généralement les parents doivent être un peu plus âgés. Oui. On ne doit pas suivre quelqu'un qui n'a pas l'expérience. D'être plus âgé.
Mais on peut être âgé et
plus âgé en expérience de mariage, oui. Pas plus d'aller en âge. C'est-à-dire, quand il dérape, déjà, à partir du moment où il continue régulièrement à se voir, à se conseiller, déraper, c'est-à-dire, il n'y a pas eu transparence, il n'y a pas eu, je ne sais pas, ils n'étaient pas en intimité.
C'était un chrétien après où il choisit d'embrasser d'autres voies. Mais qu'est-ce que vous allez faire?
Je concède à ça. Je sais que ça arrive souvent. Ça arrive que les parents qui étaient bien au départ, un monsieur bien, quand il gagnait.
Ou la marraine, hein?
Les deux. Quand le couple avait un budget peut-être de $100 par mois, tout allait bien, ils étaient réguliers à l'église et tout ça. Et puis quand le couple a maintenant $10,000 par mois, le monsieur change carrément. Bon ébélé, bassé ébélé, bon ébélé. Alors là, je pense que les filles doivent prendre aussi les responsabilités. La première responsabilité, s'ils sont spirituels, ils peuvent aussi reprendre leurs parents.
Avertir.
Deuxièmement, si ça ne marche pas, ils peuvent choisir aussi un autre encadreur pour prier aussi pour leurs parents.
Alors. Les parents divorcent, est-ce qu'on les considère toujours comme parents? On va les consulter séparément ou on fait comme...
Mais ils ne sont plus modèles, puisque les parrainages, il faut voir qu'on est modèle pour les futures générations, on est modèle pour les enfants, on est modèle pour les petits-enfants.
Oui, pour les générations futures.
Un couple qui divorce, c'est déjà une tâche, c'est quelque chose de mauvais pour les enfants et pour les petits-enfants. C'est pas bon. Il faut qu'ils incarnent toujours le modèle. S'ils ne sont pas modèles, les filles doivent prendre leurs responsabilités. S'ils peuvent faire recours à l'église, voilà ce que notre parrain fait. Il demande au pasteur de les reprendre un peu. S'ils refusent, je pense qu'il faut les considérer comme païens, il faut les considérer comme tels, continuer à prier pour lui.
Et il y a Blaise, une autre question de Blaise à Toubou, c'était sur... la pertinence même du parrainage dans notre société actuelle.
Oui, c'est très pertinent puisque on a un peu banalisé les parrainages. À l'ancienne époque, je pense que les parrainages avaient, disons, une grande importance. J'ai dit, les parrains remplacent pratiquement les parents. Prenons les cas de ceux qui sont orphelins, ils n'ont pas de parents. Mais les parrains jouent ce rôle. Nous avons parrainé plusieurs orphelines. Nous avons parrainé plusieurs orphelins. Hein? On ne joue pas seulement les rôles spirituels, on ne joue pas seulement les rôles sociaux, mais parfois on joue aussi les rôles de soutien matériel à une orpheline. Mmh. On va jusqu'au point. Les tout commence au niveau même de la dot et tout, comme l'a dit, il faut se familiariser. On l'encadre. Vous connaissez toutes les difficultés parfois que les orphelines ont lors de la dot quand les oncles compliquent et disent que non, ils préféraient peut-être que ce soit leur fille. Propres filles qui se marient à la place de l'orpheline qu'ils ont supportée. Hein, et l'orpheline se trouve un peu marginalisée. Et parfois, ils ont tendance à la remplacer par sa cousine, des trucs comme ça. Mmh. Et nous allons jusqu'à l'encadrement spirituel et matériel, jusqu'à servir en fait d'amortisseur de tous ces chocs. Hein, et on l'accompagne. Et Dieu merci, toutes les orphelines qu'on a encadrées, en tout cas, Dieu les a fait épanouir d'une manière extraordinaire. Mmh. Extraordinaire. Puis c'est le Dieu, effectivement, qui est le père des orphelins.
Tout à fait. Alors, on va se rendre à Likassi pour prendre les questions de Ruffin Basso Bantou et de Joseph Mbouyou. On va commencer par Ruffin Basso Bantou. Ruffin, bonjour.
Bonjour, merci madame la journaliste. Ainsi, j'aimerais dire bonjour idem au couple pastoral qui est en train de nous accompagner dans notre chère émission. Voilà. J'aimerais dire ceci, en termes d'intervention, parce que nous avons constaté que beaucoup de couples sont en train de déraper avec des divorces et autres. Mais nous faisons aussi des analyses, des examens, nous faisons des recherches que sur le plan de la chrétienté, il y a une église appelée, si c'est l'église tabernacle, là où quand même les couples sont stables. Alors y a-t-il pas moyen que les gens des autres confessions religieuses puissent aussi aller voir les gens du tabernacle, leurs pasteurs et autres membres de la spiritualité, pour qu'ils puissent leur transmettre l'idéologie de bien gérer les couples. Parce qu'actuellement, du côté aussi des gens, des mariés, ils veulent toujours des gens qui sont fliqués pour leur venir en aide en termes de mariage, pour qu'on puisse parler que non, qu'elle a fait un bon mariage, un mariage cher et autres. Pour que ces gens-là parviennent aussi à choisir des bons parrains. C'était ça ma préoccupation. Merci, madame la journaliste.
Merci, monsieur Ruffin Basso Bantou, pour votre intervention. Nous rejoignons Joseph Mbouyou, qui est toujours à Likassi.
Bonjour Radio Kati. Bonjour à l'invité.
Bonjour, monsieur Mbouyou. Quelle est votre question?
Oui, j'aimerais que j'ai des seules questions. Une petite suggestion, parce que le mariage est une chose qui est aussi très valeureuse et plus que ça. Car Dieu nous a créés en couple, il faut vivre toujours en couple. Ma première question est celle-ci. Est-ce qu'il faut choisir les parrains à cause d'intérêt d'argent ou à cause de l'expérience de notre parcours de survie sur terre? Le deux, est-ce que il faut choisir un parrain chrétien qui n'a jamais acquis, qui a avec ses vœux qui est très considérable avec longue vie de mariage. Tout ça, il faut choisir dans l'église. Il y a un papa qui est bonne immoralité, qui n'a pas pasteur. Est-ce que c'était prévu pour le choisir d'être parrain? Maintenant, je vois ici les autres choisir des parrains à cause des moyens d'argent. Oh, notre parrain ne nous donne de rien. Tu choisis, si je suis papa, je vais jamais donner le vaïcu. Monsieur choisit papa, Martin, lui n'a rien, il n'a rien à nous dire. Mais non, on choisit le parrain avec pour le conseil ou pour l'intérêt. C'est ça que j'avais voulu savoir. L'invité me répond.
Joseph Mbouyou, merci depuis Likassi, Pasteur Hubert, Maman Marceline.
Merci Maman Jocelyne. Je pense que ce sont des questions très pertinentes. Pour la question de savoir s'il faut choisir encore en fonction des finances, non, il ne faut pas. Il faut éviter les parrains sponsors, il faut éviter. C'est un grand piège, On ne choisit pas les parrains sur base d'abord de ses moyens,
de ses moyens financiers.
Par le fait qu'ils soient dignitaire, il est honorable, il est excellent. Bon, vous voyez que toutes ces choses-là, c'est superficiel. Le plus important, c'est de choisir selon les critères appropriés. Même par définition du parrainage, c'est un mentor. Un parrain, c'est un mentor. Un mentor, c'est celui qui encadre, celui qui guide, celui qui oriente, celui qui amène à la finalité du mariage, celui qui connaît le but du mariage. Puisqu'ils sont nombreux qui se marient sans connaître le but du mariage. Et quand on ne connaît pas le but, on commet les abus. Mmh. Et si les parrains commettent les abus, et les filles aussi auront tendance à commettre les abus. Voilà, il faut faire les bons choix. Et il faut éviter les parrainages sur base des moyens, les parrainages selon la capacité financière et matérielle des parrains, non pas ça. Mmh. C'est que je voulais dire aussi...
À Rufin Bossobantou, qui nous a appelé aussi de l'ICACI, mmh. qui a parlé d'une église hein, comme exemple.
Oui, il a cité
les églises, il y en a
le tabernacle qui est
il y en a beaucoup
qui est le modèle des parrainages. Oui, je pense que le problème ce n'est pas le modèle de l'église qu'il faut suivre. Mmh. Le plus important c'est la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu? Et si nous suivons à l'origine qui étaient les parrains des premiers parents, Adam et Ève.
C'est Dieu lui-même.
Ça, c'est là où nous parlons de la responsabilité spirituelle d'abord du parent, de la capacité d'encadrer et d'amener les couples à mener une vie conformément à la volonté de Dieu. Les premiers parents avaient comme objectif, Dieu a placé Adam et Ève au jardin d'Éden, qu'il a préparé lui-même pour ne pas vivre l'enfer. Il les a placés pour vivre le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il faut que ce bonheur ne soit pas un rêve évanoui. Il faut que ça devienne une réalité. Les parrains doivent amener l'homme et la femme à vivre le bonheur rêvé avant le mariage. D'une manière générale, on regrette de dire que voilà, il y en a même qui ont même l'impression d'avoir fait un mauvais choix. La réalité, ce n'est pas le mauvais choix. La réalité, c'est l'homme et la femme qui s'écartent de la volonté de Dieu. L'homme et la femme sont d'abord des serviteurs de Dieu. Dieu les a placés comme serviteurs. Dieu les a placés comme sacrificateurs. Ils doivent demeurer dans la présence de Dieu. Conforme à Matthieu chapitre 18 verset 19-20 qui dit « Quand deux ou trois se retrouvent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et quand Dieu est au centre de votre mariage, vous avez la protection, vous avez la bénédiction, vous avez tous ces dons vous avez besoin. Donc le plus important, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Et l'objectif final dans le mariage, Dieu vous a créé l'homme et la femme à son image, c'est-à-dire il les a placés comme prêtres, il les a placés aussi comme petits rois, c'est-à-dire ils devraient régner. Et régner veut tout simplement dire ils devraient dominer sur tout ce qui est sur la terre. Ils devraient faire l'extension de ces royaumes, l'extension du paradis partout, puisque Dieu n'a pas créé toute la terre paradis. Il a fait seulement un endroit paradis au jardin d'Éden, et là il a placé l'homme et la femme avec une mission de les servir et de transformer toute la terre, dont la continuité du travail de Dieu a été donnée à qui? À l'homme et la femme. Et c'est ça. Donc la transmission des valeurs doivent partie d'une famille. La famille incarne des valeurs qui doivent se perpétrer des pères aux fils et des fils aux petits-enfants et des générations en génération. Voilà pourquoi nous parlons des valeurs. Et ces valeurs sont bibliques. Il n'y a pas une église qui a le monopole de ces valeurs. C'est la Bible qui a le monopole de ces valeurs. Voilà, on donne au couple la Bible comme cadeau, la Bible comme guide de celui qui a institué le mariage, la Bible comme premier conseiller partant du Saint-Esprit qui est en eux, donc ils doivent bâtir une maison spirituelle. L'homme rempli du Saint-Esprit, la femme remplie du Saint-Esprit, l'homme obéissant à Dieu, faisant la volonté de Dieu pour l'extension du royaume des cieux. Voilà.
Merci, Pasteur Hubert. 0-85-42-11-547. Appelez ce numéro si vous voulez participer à cette émission au CAPI Service qui aborde le sujet sur le choix des parrains. Pourquoi le choix des parrains est-il considéré comme une étape importante dans la construction d'un couple? Jocelyne Moussa vous présente cette émission. Paul Badianyama est à la mise en onde. Benjamin Moudoumbi à la réalisation. Nous recevons le couple pastoral Hubert Mouzimi et Marceline Mambenza. Alors, pasteur,
l'âge.
L'âge du couple par un est important. Est-ce qu'il faut choisir des parrains, un parrain et une marraine très âgés, un parrain et une marraine qui ont fait un certain parcours conjugal, ou bien déjà après quelques mois de mariage, si on estime qu'on est assez mature, on peut aussi encadrer d'autres couples.
Bon, je pense l'âge dépend toujours de la maturité. Quand on parle de l'âge, bon, je peux te poser une petite question. Quel était l'âge de Dieu quand il a créé Adam et Ève? Alors, quand il a créé Adam, Ève est venue après. Quel était l'âge de Ève par rapport à Adam? Ce sont des questions. Mais je pense que le plus important, c'est de choisir un couple mûr. Un couple mûr. Un couple mûr. Nous parlons de la maturité. La maturité. Quelqu'un qui est mûr. Il y a les indices de maturité qu'on voit. Et quelqu'un qui est ivrogne, il est considéré comme non mature. Quelqu'un qui aime le sexe, il est considéré comme moins mature. Quelqu'un qui aime beaucoup l'approbation, il est considéré comme moins mature. Quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, il est considéré comme moins mature. Le plus important, c'est d'analyser tous ces critères de maturité.
Prendre le temps.
Prendre le temps de voir celui-là au moins réfléchi, celui-là au moins un modèle. Il incarne quand même des valeurs sociales de la société, de notre environnement. Alors, celui-là, on peut le choisir. Il est stable. Bon, bien sûr, il peut y avoir des rapages après. Au départ, on a cru qu'il était comme ça puisqu'on ne connaît pas tout. On a parlé tout à l'heure des rapages aussi des parrains, puisque l'argent corrompt aussi, les titres corrompent. Nous connaissons les gens qui ont très bien commencé la vie avec son épouse et tout allait très bien. Mais dès qu'il est devenu patron, dès qu'il est devenu, il est un peu friqué, les comportements changent, l'attitude change. C'est très, il faut tenir, ça, il y a des paramètres que nous ne pouvons pas prévoir. Voilà.
Voilà. On va retrouver encore une fois Papi Mboyo qui nous appelle de Mbandaka. Papi Mboyo, rebonjour.
Bonjour madame, je suis Lène Moussaou.
Oui, votre question à nos invités, le couple pastoral Hubert et Marceline.
J'ai des joies à ce niveau du débat. La première serait ça de savoir, la première serait de comprendre que c'est la toute première fois que je suis auditeur de la radio Capri, ça fait 15 ans aujourd'hui. Et c'est la toute première fois d'avoir au studio un couple pastoral. Quand moi, j'entends qu'il y a un couple pastoral, pour moi, je m'incline. Et c'est la toute première fois que, à mon niveau, à la radio Capri, je suis auditeur depuis longtemps, d'attendre qu'il y a au studio un couple pastoral.
Merci. D'abord, votre question, s'il vous plaît.
Ils sont en train de parler des mariages chrétiens, le parrainage des mariages chrétiens. Ça, c'est un niveau, deuxième niveau que je pouvais avoir comme joie. Et là, avant d'aller dans les petites questions, laissez-moi, madame, permettez-moi d'aller dans les petits commentaires. Pour dire aujourd'hui, dans les parrainages, il y a beaucoup de complaisance qui rentre dedans. Aujourd'hui, moi, je suis ici à Mbandaka où ça fait au moins, avec ma femme, on a 17 ans d'une vie d'ensemble, donc 10 ans d'une vie chrétienne, et 7 ans avant, on était sans le mariage chrétien. Avec le mariage chrétien, aujourd'hui, on a 10 ans, on va vers 11 ans. Mais il y a des gens qui choisissent le parrain parce que le parrain a le véhicule, il a une jupe piquée, parce que les jours de la fête, il va envoyer sa jupe pour transporter les casiers de bière et tout, à la sorte de fête. Le parrain, il a un peu de moyens. Il va prendre la fille, la charge au salon pour la chevelir, les voiles et autres. Voilà au moins, si toi tu n'as pas, et c'est un problème que les jeunes qui viennent ne peuvent jamais vous choisir. Et dans ce niveau du débat, moi je vais aller tout droit dans des petites préoccupations, demander au couple pastoral. Cher couple pastoral, vraiment, je suis très, très ému et vous avoir au niveau des studios. Première question, j'aimerais vous demander, essayer de savoir, quel est l'impact des parrainés, l'impact des parrainages, si vous voulez bien. Pourquoi on parraine? Quels sont les impacts? Ça veut dire M. Et de deux, pouvez-vous dire chaque couple? Quels sont les critères qu'on va voir le parrain? Parce qu'on peut changer seulement parce que ici, en Bandaka, je vous dis, ce n'est pas des théories, mais ce sont des choses pratiques. Il y a eu un couple de mon ami qui est parti être parrainé par un couple parce que c'est un monsieur, vous êtes à la ville, il a un peu de moyens, mais il s'est limité au niveau du mariage coutumier. Mais mon ami là, mon collègue, est parti suivre le religieux avec le monsieur, parce qu'il était plus âgé que lui, il a un peu de moyens. Il est parti lui parrainer, mais le monsieur lui-même, le parrain, est venu régulariser son mariage. Après, je ne sais pas, quels sont les critères qui peuvent être parrain, un couple parrain. Et de trois, comment faire, qu'est-ce qu'il y a de moyens pour pérenniser le parrainage? Parce qu'aujourd'hui, le parrainage finit seulement le jour de la soirée. Après la soirée, c'est fini. Tout est fini. Mm. Et pour finir, peut-on changer le parrain, le couple pastoral? Parce que là, c'est des questions techniques. Parce que nous, ici, à l'église, on a tout le temps de couple, les réunions de couple, les sorties de couple, dîner de couple, échange de couple, échange de vœux par le couple. On a beaucoup de problèmes. Peut-on changer de couple? Et avant de remettre la parole, madame, est-ce que la marraine peut considérer sa fille comme comment je peux dire, son employé?
La fille, on va s'arrêter là, papy Mboma, pour donner aussi la parole à Dior Dominique. On prend d'abord les questions de Dior avant de répondre, Pasteur Hubert. Dior Dominique, vous êtes au Lualaba, bonjour.
Bonjour, maman. Ce n'est pas pour vous donner, vous poser une question. Je suis très intéressé sur ce sujet. Mais ce que je voudrais vous dire, je suis Dior, époux de maman Moussin Bernadette. Nous avons à peu près 50 ans de mariage.
Bravo.
Et nous sommes parrains de 11 couples.
Ok.
Et marraines de 23 baptisés. Oui. Nous sommes en contact avec régulier avec le couple parrainé qui sont dans les environs. Et nos enfants aussi spirituels. Ces contacts nous permettent de les accompagner d'une bonne manière. Parce que notre conduite sur place ici est une grande école pour les couples voisins de nos parrainés. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais tout simplement faire comme intervention.
Merci beaucoup, Dior Dominique, pour votre témoignage. On va répondre aux questions de Papi Mboyo, qui nous avait appelé depuis Mbandaka. On va commencer par la dernière, maman Marceline. Oui. La marraine peut-elle considérer comme son employé, carrément.
Ça me dépasse d'attendre des commentaires comme ça.
D'abord, sa fille de course, c'est elle qui fait tout.
D'abord, quand on veut se marier, on est mature, comme on a dit, on est responsable. Il faut qu'on se le dise, les parents viennent en appui. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'ils doivent être là, en train de veiller, de surveiller. Puisque, étant donné que les mariés ont eu leur objectif, ils ont eu leur programme, ils doivent le faire. C'est quand il y a difficulté, quand il y a une incompréhension, quand il y a quelque chose...
Parce que le couple doit garder aussi son intimité,
c'est un système de recours.
Oui.
Alors qu'on ne porte pas trop de poids sur les parrains, la marraine. Évidemment, aujourd'hui, avec l'opportunisme, les gens choisissent par intérêt. Mais nous avons aussi des conséquences. Il y a des parrains qui arrivent à prendre leur fidèle en coiffant, et puis ils les transforment même à leur copine. C'est-à-dire, il y a vraiment un danger, un risque. Il faut que les mariés eux-mêmes se prennent en charge, qu'ils arrivent à accepter leur état de vie, leur niveau de vie, et les parents viennent en complément. Là, quand c'est les 10.
Il faut trouver l'équilibre.
Puisque la compétence, c'est que même quand on les fait, il faut que l'État arrive même, si c'est pas, à mettre les modèles. Nous voyons maintenant à l'État civil, on prend comme témoin qu'on paraît celui avec qui on a passé la vie de la jeunesse. Donc, quelqu'un qui sait même pas être en justice, alors quand les divorces ou qu'il y a des difficultés, la marraine ou bien les témoins est incapable, il connaît même pas la loi.
Donc d'abord, il faut qu'ils connaissent la loi qui régisse les mariages. D'abord, la loi divine. Ensuite, la loi de l'État, la loi civile. Mm-hmm. Comment on peut prendre la fille, ou bien comme une employée. Mm-hmm. Elle a son foyer à gérer, là, c'est son programme, son mariage. Comment on doit se substituer à une employée? Mm-hmm. C'est-à-dire, il y avait une difficulté dans les logements, mm-hmm. elle se retrouve chez la marraine. Mm-hmm. Non. Il faut qu'elle
est redevable.
Il faut que les mariés se préparent d'avance pour être autonome, indépendant. Mm-hmm. C'est lui qui veut se marier, il est devenu capable. Mm. Indépendant, ça suffit. Donc, s'il y a un petit problème, c'est là où les parents interviennent. Donc, nous devons mettre quand même
des limites.
Des limites.
Merci, maman.
Est-ce que je peux compléter un peu
par rapport à cette question?
Je pense qu'il est malsain d'exploiter les filles.
Les filles.
Non. Les filles ne viennent pas en appui des parents.
De la même manière qu'il est malsain d'exploiter aussi les parents,
vice versa. Oui. Mais d'une manière décente, je pense que c'est aux parents de venir au secours des filles, d'abord sur le plan spirituel, deux, comme mentor, trois, si possibilité y est, sur le plan matériel aussi. Mais pas l'inverse. Mais l'inverse peut se faire si eux-mêmes prennent la liberté de faire un don, un cadeau. Là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça s'efface systématiquement en système d'exploitation. Non. Et autre question, de notre monsieur, le monsieur de Mbandaka. Il est revenu encore sur les terrains des parents sponsors. Non. La réalité, tu vois, nous avons écrit par ce livre-là pourquoi se marier. Les grands problèmes, les gens ne connaissent pas pourquoi ils se marient. Les grands problèmes, c'est ça. J'ai dit au départ, si vous ne connaissez pas le but du mariage, vous allez commettre les abus. Il y aura beaucoup d'abus. Et les gens préparent souvent un jour de mariage. Pas même un jour, 2 heures de mariage. Il peut prendre 4 ans pour préparer 2 heures de la fête. La robe, l'environnement, la salle. Ils vont donner la dot. Après la dot, ils attendent encore 2 ans pour avoir la robe de la soirée qui viendra, ne sais pas, de l'Espagne ou de New York. Oui. Si on prépare cette apparence-là, effectivement, on est
à côté de
la plaque. Il faut préparer plus de 50 ans de vie, 60 ans de vie commune, à la place de prendre du temps pour préparer 2 heures. C'est ainsi qu'il y en a qui s'en sortent avec des dettes. Hein? Il va prendre des crédits pour se marier, alors que la réalité d'amour n'est pas lié au matériel. Mm-hmm. Hein? Ça, c'est vraiment tombé à côté de la plaque.
Et en ce qui concerne la forme de mariage du couple parrain, est-ce que si on n'est pas... si son mariage n'a pas été béni à l'église, est-ce qu'on peut parrainer un couple?
Mais il n'est pas modèle.
Voilà.
Il n'est pas modèle. C'est pas possible que tu présentes aux gens ce que toi-même tu n'as pas fait. La logique est que les mariés lui-même, les couples et parrains doivent avoir suivi les processus.
Donc si on s'est arrêté à l'état civil, si on n'est pas allé à l'église, on ne peut pas, selon vous,
dans notre environnement, aujourd'hui, nous sommes dans les villes, on sait qu'il y a 3 mariages pour un couple. Il y a l'aspect dot, mariage coutumier, en fait, c'est là le vrai mariage. L'Église ne marie pas. Au niveau de l'État civil, pour l'État, c'est là où l'État authentifie ce qui se fait au niveau de la coutume. Et après, on peut aller maintenant à l'Église. Et l'Église, c'est la bénédiction nuptiale.
Donc il faut avoir suivi ces trois étapes-là. Pour finir, on va conclure l'émission. Quels sont les critères de choix d'un parrain? En bref, que peut-on retenir en quelques secondes?
En peu de mots, je peux dire d'abord les vrais critères de choix d'un parrain, c'est la maturité. Les parrains et la marraine doivent être mûrs. Les parrains et la marraine doivent avoir l'expérience. Les parrains et la marraine doivent avoir un peu un âge de mariage avéré, et tout le monde puisse approuver. Et les parrains et la marraine doivent craindre surtout Dieu et connaître le but du mariage. Si eux-mêmes ne connaissent pas le but, ils ne sauront pas orienter les autres.
Pasteur Hubert Mouzimi et Marceline Mambenza, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir participé à cette émission, chers auditeurs. C'est la fin de Okapi Service. Restez à l'écoute de la fréquence de la paix. Il est 12h à Kinshasa.